Bienvenue dans Sur le grill des Cotables, le podcast qui décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Ce podcast est aussi l'occasion de dresser des portraits de l'écosystème écotable. Ces militants de l'assiette, je les rencontre depuis le lancement des Cotables début 2019. Ils se réunissent autour d'objectifs communs, l'écologie et le bien manger. Aujourd'hui, à travers ce nouveau format, je souhaite faire connaître ces restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs, militants. Je souhaite vous faire partager ces engagements, ces parcours. J'espère que ces portraits vous plairont. N'hésitez pas à me faire un retour et à nous soutenir en notant ce podcast 5 sur 5 et en le partageant largement. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode des Militants de l'Assiette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Angèle Ferremag, fondatrice et chef de la Guinguette d'Angèle. Angèle est passionnée par la cuisine et les bons produits depuis toute petite. Après une formation de naturopathie, elle a créé en 2013 son service traiteur gourmand, sain et sans gluten qui cartonne depuis son ouverture. De plus, cerise sur le gâteau, ses services de traiteur sont désormais labellisés écotables. Aujourd'hui, Angèle gère deux comptoirs à emporter au cœur de Paris, mais elle compte aussi à son actif plusieurs livres et une émission de télévision sur France 5. Bonjour Angèle.
Bonjour.
Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ?
Alors, c'est très bizarre que tu me poses cette question parce que je sors d'un stage de Kundalini Yoga où on a dû dire qui on est. Et donc là, j'aurais pu te dire ce que j'aurais dit le premier jour. Je m'appelle Angèle Ferremag, je fais la cuisine, je suis naturopathe. Sauf que le dernier jour, on devait vraiment parler de son identité. Mais là, je vais être trop perchée pour vous.
J'adore.
Donc, entre les deux, je suis une fille très heureuse de vivre. J'adore manger, j'adore cuisiner et j'adore le partager.
Le but de ce podcast, c'est de revenir un peu sur vraiment les origines de ton parcours, du pourquoi, du comment, par quels obstacles t'es passé. C'est quoi pour toi le déclic ? Comment ça s'est passé ? Comment tu es devenue naturopathe ? Puis ensuite, tu as ouvert donc les Guinguettes d'Angèle.
Alors, en fait, ça a commencé quand j'y pense assez tôt parce que petite, mes parents nous respectaient assez pour nous donner de la vraie nourriture, pas des petits pots, pas des knackis, mais des vrais, des produits vraiment bons. En fait, on mangeait bien à la maison.
Tu viens d'où?
J'ai passé les premières années. Enfin, on était beaucoup à Grasse, au sud de Grasse, dans le sud de la France. Mais sinon, j'étais à Paris. À partir du moment où on a eu cours, on était tout le temps à l'école, on était tout le temps à Paris. Et on était dans cet endroit dans le sud où c'était une ferme, en fait. Donc, on était en pleine nature. À cette époque, il n'y avait pas encore d'eau dans la maison. Enfin, il y avait un potager, des animaux. Enfin, c'était vraiment c'était Manon des sources, quoi.
Ouais,
c'était vraiment
le
rêve pour un enfant, le rêve absolu. Et je pense que mes parents sentaient l'importance de très vite connecter les enfants à la nature. Et donc, en fait, c'est toujours resté un peu en moi, même si après, j'ai eu une adolescence parisienne où on est un peu déconnecté. De toute façon, quand on est adolescent, on a besoin d'appartenir aussi à un groupe et tout ça. Donc, clairement, il n'y avait pas de groupe nature et découverte, cabane dans les arbres et on plante nos graines. Donc, c'était plutôt pétard, boîte de nuit et McDo éventuellement.
Classique.
Mais bon, comme tout le monde. Et ensuite, quand j'avais 14 ans, une amie de ma mère... En fait, je pense que ma mère s'inquiétait pour moi. Elle devait se dire que j'allais très mal. Avec du recul, parce qu'une amie de ma mère m'a dit « Est-ce que tu veux venir avec moi en Inde apprendre l'Ayurveda ?»
Ah ouais.
Donc la médecine traditionnelle
indienne.
Mais
ça veut dire que tes parents étaient vraiment déjà dans ça, dans des médecines traditionnelles
Mais en fait, pas du tout. Enfin, ma grand-mère, oui, ma grand-mère paternelle, beaucoup. Mais mes parents, pas tellement. Mais je pense que ma mère était assez à l'écoute de ses enfants pour sentir que c'est quelque chose dont j'avais besoin, en tout cas, que j'avais un attrait pour ça.
Ok.
Donc
tu l'exprimais pas, mais elle l'a ressenti.
Non, après je faisais de la sorcellerie, ce genre de trucs, tu vois. Donc elle devait se dire.
D'accord.
Mais ouais, donc c'est parti comme ça. Et donc je suis partie avec une amie à elle qui est une amie à moi aussi en Inde, et on était dans un petit village à apprendre l'Ayurveda dans
Combien
une famille
de temps
traditionnelle.
T'es partie ?
Deux mois.
Ok. Ce qui est beaucoup
partie,
à 14
ouais,
ans.
C'est beaucoup, beaucoup. C'était en partie l'été, mais aussi j'ai pas mal séché les cours. Et puis voilà, donc c'était ma première initiation à ça, au fait que l'alimentation peut vraiment avoir un impact sur la santé au point d'être une médecine.
Ouais.
Et qu'en fait, et bref, c'est resté vraiment quelque chose d'important en moi, mais je évidemment, je voyais pas de déboucher. Je pensais à aucun moment faire un métier.
Mais ça t'a marqué.
Ça m'a marqué profondément, je pense, ce lien. Et puis en plus, on était dans une famille, donc on vivait chez ces médecins ayurvédiques. Et en fait, l'ayurveda, ça n'est pas seulement l'alimentation, ça n'est pas seulement la médecine, c'est tout un art de vivre, en fait. Donc c'est très intéressant, en fait, de toucher, d'avoir la chance d'être au centre de ça pour comprendre un peu comment ça se passe, comment ça se déroule, quel est l'impact de toute la vie sur notre santé, de nos rapports aux autres. Enfin, c'est énorme, en fait.
Et à 14 ans, tu as eu la conscience de ça? Enfin, vraiment, tu as réussi à comprendre la complexité de l'ayurveda?
Je le comprenais parce que je sais pas ce que j'ai ressenti à l'époque, mais je sais que ça m'a marqué. Je sais pas exactement. Je me souviens de nos assiettes. Donc, on mangeait dans des feuilles de bananier où, en fait, il y avait toutes les saveurs. Chacune nourrissait une partie de la mer pour le foie. Enfin, il y avait, en fait, chaque jour, en fait, notre action était liée à notre santé et à notre mieux-être et à la personne aussi à laquelle on aspirait. Parce que c'est plus que ça, c'est aussi philosophique presque.
Ouais.
Et donc voilà, pour l'Ayurveda, puis après le temps passe, je passe mon bac à San Francisco, et là-bas le week-end je travaille...
Pourquoi tu passes ton bac à San Francisco?
Parce que j'ai eu en fait une opportunité, j'étais dans une école... à Paris, dans laquelle ils voulaient pas tellement qu'il y ait ils veulent 100% de mention au bac. Moi, j'y étais depuis que j'avais 5 ans et clairement, j'étais pas prête.
Une école privée?
En fait, c'est une école, c'est la première école laïque sous contrat avec l'État.
D'accord.
Donc, c'est pas du privé, c'est pas du public, c'est un peu entre les deux. Et bref, donc c'est une école excellente, en effet. Mais bon, moi, j'étais pas un excellent élève du tout. J'étais un cancre total.
Ah bon?
Mais je m'entendais, ouais, super. J'étais très, très mauvaise parce que je travaillais jamais.
D'accord.
Mais par contre, je m'entendais très bien avec les professeurs. J'adorais mes potes. Enfin, j'adorais l'école, quoi. Mais j'étais vraiment nulle. En fait, j'étais très, très dyslexique. Donc, donc, en fait, à partir du moment où l'orthographe, donc quand l'orthographe c'était noté, j'étais de toute façon nulle en orthographe. Mais quand l'histoire géo, enfin, tout a commencé à devoir, enfin, l'orthographe entrait en compte avec les autres matières, j'ai commencé un peu à décrocher.
Et tu voulais pas travailler chez toi? T'avais une pression du coup parentale?
Je pensais que j'étais trop bête, en fait. Je pensais que je comprenais pas que j'étais dyslexique. Je pensais que pour moi, c'était...
Ah, tu le savais pas? On n'avait pas mis de mots sur...
Ah non, pas du tout, non. J'ai compris plus tard, en fait. Et donc, je développais d'autres stratégies, quoi. J'apprenais par cœur. Heureusement, il y avait la bio, les maths. J'allais dire le sport, mais non. Quand même pas. Enfin, tout de même pas. Et bref, donc voilà. Et j'avais déjà redoublé une classe et je devais redoubler encore ma terminale, ma première. Et je vais voir le directeur. Je sais pas comment j'ai eu ce courage à cette époque. Je pense que j'étais bien boostée. Mais je suis allée voir le directeur et je lui ai dit, écoutez, j'ai pas envie de redoubler. J'ai vraiment, j'en ai marre, quoi. J'ai envie de passer à la classe supérieure. Et je sais que vous êtes pas en état de me garder en terminale comme je suis aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un avis favorable en me faisant passer dans une autre école?
Et là, intelligent.
Donc, en fait, il était très content. Sauf que je lui disais non à tout. Il me proposait des pensions, des machins, des trucs. Et je lui disais non, mais je fais un truc qui sorte de la norme, en fait. Et donc, on a un échange dans cette école avec San Francisco. Donc, la directrice, vraiment par hasard de cette école, était en voyage à Paris à ce moment-là. Il m'a dit, je te tiens rendez-vous avec elle, mais je te garantis rien. En général, ils prennent sur dossier et clairement, tu n'as pas le dossier.
Ah oui.
Et donc, je me suis retrouvée en face de cette femme adorable qui s'appelle Jane Camblin. J'oublierai pas du tout ce rendez-vous parce que je me souviens m'être, j'ai eu un culot pour mon âge. J'ai été vraiment cool ce jour-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Et donc, je me retrouve avec cette femme dans ce grand bureau et tout. On était à l'autre bout de la table et elle regardait mon dossier. Elle me dit, I'm sorry, I don't know why I'm going to take you because seriously, you're not a present. Elle me dit que j'étais pas un cadeau. Et là, avec un anglais pourri, je lui dis, but you don't understand. I'm not good because I don't like school, but I will become the best Christmas present of your life. Et donc, bref, elle a trouvé que j'avais du culot. Elle m'a trouvé rigolote, je pense. Elle m'a prise à l'essai. Et donc, je suis partie à San Francisco. Et c'était très cool. J'étais dans une famille là-bas extraordinaire pendant les premiers mois. Après, j'ai vécu toute seule, mais qui sont restés des très, très grands amis, en fait. Et
t'es restée combien de temps?
Je suis restée un an. J'ai passé mon bac et bref, je travaillais le week-end.
Mais c'était une école. Enfin, tu as passé le bac français.
J'ai passé le bac. En fait, il y avait une petite section française. D'accord. Mais moi, j'étais en L, en littéraire. Et là-bas, ils n'avaient pas de L, donc il n'y avait que ES. Donc d'accord. J'ai passé un bac ES. Et puis, je faisais italien, il n'y avait pas d'italien. Donc j'ai dû passer l'examen d'italien à l'ambassade d'Italie. C'était assez rigolo, en fait. C'était un peu n'importe quoi, mais c'était très, très marrant. Et donc voilà, le week-end avec la fille de cette famille extra qui s'appelle Zoé, on travaillait au Ferry Building Market, qui est le marché des producteurs, un farmers market mais extraordinaire à San Francisco. Ils sont quand même très très évolués là-bas sur tout ce qui est écologie, locavorisme particulièrement et traitement des déchets. Enfin, c'est assez hallucinant. Au début, je comprenais pas tout ça. Enfin, les poubelles, je comprenais rien et tout. Et après, quand je suis revenue en France, je me suis demandé comment. Enfin, ouais. C'était pas possible qu'on continue comme ça.
T'as rendu compte à quel point on était en retard.
Exactement, total. Et donc, ce marché, donc tout d'un coup, parce qu'à cette époque-là, en 2006, en France, les paysans, c'était pas très glamour. On parlait pas de ça, en fait. On était vraiment sur autre chose. Et là, tout d'un coup, tous les fermiers qui sont des bombes, les fermières, les agricultrices qui sont des espèces de top modèles, tout le monde était gentil, beau, les carottes de toutes les couleurs, des stands entiers de graines germées. Enfin, c'était hallucinant, quoi. C'était un peu une sorte de d'Éden, ce marché. Je sais pas si...
T'étais végétarienne déjà?
Non. Et puis voilà, mais bon, c'est surtout cette conscience du locavorisme que San Francisco m'a apporté. Ensuite, je suis allée.
Donc, t'as ton bac.
Ouais, donc j'ai mon bac, miraculeusement. Et ensuite, je suis allée en Australie pour rejoindre mon frère qui faisait du surf là-bas. Enfin, en fait, ensuite, j'ai commencé des études de médecine.
D'accord.
Et ça se passait plutôt bien, bizarrement. Mais j'étais pas très bien. Enfin, clairement, quand on travaille comme des dingues et tout ça, c'est pas dingue. Et surtout, moi qui avais vécu cette année à San Francisco, qui avait pas mal voyagé et qui avait redoublé en plus, donc j'étais plus vieille que les autres, il y avait un décalage tellement énorme entre ces gens que je côtoyais et qui étaient dans leurs bouquins et qui se faisaient des sales coups, qui piquaient les notes des uns des autres, qui mettaient des laxatifs dans les cafés, qui parlaient que de... Enfin, qui, en fait, vivaient pour ça, mais n'avaient aucune autre... Enfin, en tout cas, je dis pas que tous les médecins sont comme ça, mais en tout cas, j'étais entourée d'étudiants avec qui je me sentais vraiment en décalage. Et puis, je me disais que ça allait devenir les médecins de demain et tout. Enfin, bref, j'étais pas en accord, en fait, avec l'équipe des autres étudiants. En revanche, j'étais très... J'étais très contente d'apprendre et ça marchait d'ailleurs très, très bien. Sauf que pendant des vacances, ma mère m'a offert un stage de jeûne.
Donc, au bout d'un an de médecine?
Ouais, au bout de 8 mois, à peu près. On avait déjà passé le premier partiel. Ça s'était très bien passé. J'étais même classée. Et là, donc, je pars en vacances jeûner.
Mais attends, c'est incroyable le rôle de ta mère quand même. Parce que tu
mais
dis
ouais,
qu'elle
mais
était...
en fait, c'est marrant parce qu'en te parlant, et pourtant, je sais que c'est compliqué entre nous, mais en parlant, je me rends compte à quel point elle est quand même à chaque fois présente dans des moments très clés dans ma vie.
Parce que pourquoi elle t'offre un stage de jeûne?
Parce que, pour plein de choses. Déjà parce que j'avais pris du poids depuis les États-Unis, qu'en plus en médecine, je vivais chez mon père, mais je mangeais n'importe comment. Enfin, heureusement, il me faisait les repas du soir, mais sinon, le reste du temps, c'était... Enfin, je travaillais non-stop, en fait. Ouais. J'avais même pas le temps de m'arrêter, donc c'était... Et ça a forcément un impact, évidemment, sur la santé globale. Donc, je pense que, déjà, elle voyait que j'étais pas au top à ce niveau-là. Et qu'un ami à elle, en fait, était allé jeûner là-bas, chez cette femme, et était revenu. Enfin, il y avait une sorte de métamorphose. Elle avait dîné avec lui la semaine d'avant. Et elle m'a dit, elle me racontait cette histoire. Elle me dit, mais ça te brancherait. Je dis, mais carrément et tout. Moi, j'adore vivre des expériences. De toute façon, je pense qu'on est un peu là pour ça. Et donc je suis allée jeûner. Et là, mais une sorte de révolution dans ma vie. En fait, c'est marrant parce que je suis venue à la cuisine par l'absence de nourriture.
De nourriture, c'est fou.
Je me souviens que tout est... alors, je ne sais pas si parmi les auditeurs ou si tu as déjà expérimenté le fait de jeûner.
De jeûner, jamais, moi.
Mais c'est complètement dingue, évidemment. Il faut que ce soit encadré. On ne peut pas le faire enceinte. Ce n'est pas pour tout le monde, etc. Mais bref, à ce moment-là de ma vie, c'était le truc le plus dingue que j'avais jamais vécu. Je me suis rendu compte de plein de choses.
Tu avais 19 ans, quoi.
Ouais, j'avais 19 ans, exactement. Et je me suis rendu compte, ça a été un vrai déclic. Je me suis rendu compte de plein de choses. Déjà que, en fait, si on peut vivre sans manger, bah, pourquoi avoir peur de manquer et puis de nourriture et puis finalement de manquer d'argent et de manquer de sommeil et de manquer son train et en fait que toutes ces peurs-là, et en plus ce stage était animé par une naturopathe qui s'appelle Céleste Candido, qui est extraordinaire et qui dégage vraiment ça, cette espèce de joie de vivre, de joie de l'instant. Et en fait, tout d'un coup, je me rendais compte qu'une autre santé était possible et que, contrairement à ce que j'étudiais, on a une pathologie, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'était en fait comment ne pas avoir de pathologie, comment rester en bonne santé. C'était vraiment de la prévention. Et je me suis dit que c'était vraiment ça qui me ressemblait, en fait. C'était beaucoup plus intelligent. Ça me parlait tellement plus. Je dis pas que la médecine n'est pas, évidemment, on se casse le bras, on a un cancer. Enfin, évidemment, heureusement que ça existe. Mais là, je trouvais ça beaucoup plus intelligent de transmettre un message de santé plutôt de réponse. Et voilà. Donc, je me suis vachement intéressée à la médecine traditionnelle chinoise d'abord, où on paye son médecin que quand on est en bonne santé, en fait. Il est censé nous garder en bonne santé. Je trouvais ça tellement intelligent comme modèle. Et puis aussi, un autre truc qui m'a marqué par rapport à la médecine dans ce stage de jeûne, c'est que je me suis rendu compte que tout allait mieux chez moi. Ma vue était meilleure, mon audition était meilleure, ma peau était plus belle, mes cheveux étaient plus beaux. J'ai eu une clarté d'esprit que j'avais jamais eu avant. Tout était très clair. Je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour la médecine, j'étais pas du tout faite pour ça.
T'as jeûné combien de temps?
J'étais partie là-bas pour une semaine. Donc un jeûne de 5 jours et finalement je suis restée 2 semaines. Donc j'ai jeûné directement 2 semaines.
Ah ouais.
Et j'étais trop bien. Après
mais comment ça se passe, parce que tu dois avoir quand même un impact. C'est pour les gens, je pense, qui n'ont jamais expérimenté le jeûne, c'est toujours surprenant de se dire qu'on a plus d'énergie alors qu'on met beaucoup moins de choses dans son corps qui sont censées donner de l'énergie.
Mais c'est sûr, c'est l'aberration du truc. Après, attention, hein, on jeûne pas toute sa vie. On est évidemment fait pour manger, mais en fait c'est un reset excellent, c'est une sorte de mise au point qui est vraiment géniale. En fait, ce qui se passe, c'est que les 3 premiers jours, en revanche, on est fatigué, on peut avoir des maux de tête, on se sent pas bien. Donc ça, c'est clair. C'est pareil, en fait, que les cures de jus, les monodiètes, on peut l'expérimenter autrement, hein, le jeûne. Si on n'a pas envie d'aller aussi loin que ça, on peut expérimenter ce nettoyage corporel autrement. On aura les mêmes symptômes. Il faut tenir, en fait. Et quand on tient ces 3 jours... En fait, en premier lieu... les cellules qui n'ont plus d'apport énergétique extérieur vont commencer à se nettoyer. Donc, dans un premier lieu, on a en circulation dans notre corps les toxines, etc. C'est pour ça qu'on a des mal de tête, qu'on ne se sent pas bien, qu'on a des pertes d'énergie, tout est à gérer, le foie travaille comme un dingue et tout. Et ensuite, on n'a pas d'apport énergétique extérieur, donc les cellules vont chercher de l'énergie dans elles-mêmes, donc dans leur propre poubelle. Et elles vont se régénérer, en fait, de cette façon. La cellule se régénère quand elle est stressée, ou par le manque d'alimentation, ou par le sport. Et donc bref, on se nettoie, quoi. On s'auto-nettoie. C'est un gros auto-nettoyage. Et finalement, c'est hyper naturel. C'est pas un truc à la mode. Ça existe déjà dans toutes les religions.
Oui.
Le jeûne d'Esther pour la religion juive, le carême pour la religion catholique. Évidemment, dans la religion bouddhiste, on le retrouve. Enfin, dans toutes les religions, en fait, on a une partie de jeûne. Pour le ramadan, pour l'éveil de l'esprit et de la conscience. Après, ça peut être spirituel ou pas, mais je comprends très bien comment ça peut l'être, parce qu'on a une telle clairvoyance, presque. Et puis aussi, tous les animaux, tous les mammifères jeûnent, se purgent ou hibernent. En fait, c'est des moments de pause digestive qui sont importantes pour nous. Et surtout, nous qui avons des quotidiens un peu surexcités, surtout pour les citadins... où on essaie de tout cumuler, etc., faire une vraie pause. Et idéalement, évidemment, on ne fait pas seul. Hein.
Oui,
surtout pas le premier. On va dans un organisme, donc jeûne et randonnée, par exemple, on peut regarder. Ou alors, enfin, en tout cas, il faut qu'on soit entouré. Déjà parce que le groupe porte à mort. Et aussi parce qu'il y a des règles, il y a une descente alimentaire, il y a des reprises alimentaires, ça se fait par palier. Et je pars dans tous les sens.
Pas du tout. Et moi, ce qui me fascine, c'est pendant que tu jeûnes, tu bois de l'eau quand même. Tu mets quoi dans ton corps?
Tu mets de l'eau et des tisanes et des bouillons pour les minéraux.
Okay. Okay.
Mais sinon, tu ne manges
rien
pas.
Rien d'autre sinon pendant 2 semaines, toi.
Ouais. Ah, j'ai même jeûné plus après dans ma vie. Je suis allée un peu plus loin dans les trucs.
Okay.
Mais ouais, rien. Et franchement, c'est dingue.
Incroyable.
Franchement, c'est dingue. Mais vraiment, il faut être entouré. Oui, parce que voilà, je voulais te dire que par rapport à notre société, ça fait pas qu'une pause digestive, ça fait aussi une pause dans notre vie, une sorte d'introspection.
Oui, ça c'est clair.
Un recul sur les choses et aussi une pause de digitale et, mmh. et de stress et de. Et puis, il faut évidemment le faire dans la nature pour avoir un peu toute cette énergie tellurique qui est hyper importante. Bref, je te raconte vraiment les détails de ma vie là. Ma vie,
mais c'est pour ça qu'on est là. Et donc, ce deuxième déclic après, l'Ayurveda. Troisième déclic, même après San Francisco.
Ouais, c'est vrai. Disons que oui, en fait, quand je pense avec du recul, mon chemin s'est fait comme ça par étapes. De toute façon, quand on commence à faire attention à soi, avoir la conscience, que ce soit écologique, parce qu'en fait, c'est très lié, la santé, bien l'écologie, finalement, c'est la même chose. En fait, on s'arrête jamais. Mmh. c'est toute la vie. Donc en fait, une fois que j'avais mis le pied dedans, même si c'était qu'un petit orteil, ma vie, puis aujourd'hui, ça continue encore. Tu vois, je reviens d'un stage de Kundalini. J'aurais jamais cru que je pourrais faire un truc comme ça.
Et donc là, en rentrant, c'est radical, tu arrêtes la médecine?
En rentrant, je passe quand même mes deuxièmes partiels et ça se passe bien. D'ailleurs, j'aurais pu passer en deuxième année, mais je me rends compte que j'ai pas envie de faire ça. Pour savoir un peu ce que je voulais faire, je pars en Australie rejoindre mon frère qui faisait des études et beaucoup de surf, surtout là-bas.
Et tes parents, ils te soutiennent dans ce choix d'arrêter la médecine traditionnelle? Parce que c'est osé, on sait le nombre de personnes qui redoublent pour avoir médecine derrière.
En fait, c'est bizarre, mais ils me soutenaient pas du tout pour faire médecine.
Okay.
En fait, mes parents n'ont pas eu leur bac. Ils nous ont vraiment élevés dans la passion, en fait, faire ce qu'on aime et pas travailler pour vivre, pas vivre pour travailler. Bref, je sais plus la phrase, mais on peut tromper quelqu'un 100 fois, mais pas bref. Mais en tout cas, ne pas passer sa vie à se tuer au boulot. Qu'en fait, il faut que les choses soient agréables, la vie est courte, il faut que ce soit joyeux en fait. Donc mes parents ils nous ont soutenus en fait à partir du moment où on apprenait des choses ou on voyageait, on découvrait des choses, ils nous soutenaient financièrement. Donc c'était génial en fait. Donc soit on voyageait, soit on faisait des études, mais en tout cas on n'avait pas le droit de glander dans notre chambre. Mais par contre c'était hyper enrichissant. Et donc quand je suis partie en Australie, je faisais des études là-bas aussi. J'ai découvert encore d'autres trucs, le culte là-bas total du corps, du sport. Ouais. Et aussi je travaillais dans un petit, parce que j'ai quand même toujours travaillé quand même dans des petits marchés ou en tant que serveuse ou nounou, enfin j'ai fait plein de trucs comme ça. Et là-bas je travaillais dans un petit bar à jus et avec des copines on faisait ce qu'elles appelaient le Green Monday, donc le lundi on ne buvait que du thé vert. Donc en fait, c'est marrant parce que
je continuais à jeûner
finalement. Et bref, c'était vraiment trop chouette cette expérience.
Combien de temps tu restes en Australie?
Un an. Et puis surtout dans les jus, donc je passais ma journée à dire les bienfaits de trucs machin, de pourquoi il fallait que les jus soient pressés à froid, des enzymes, des minéraux, de la digestion, pourquoi on appelle ça les green juice, pourquoi les bienfaits du vert en fait sur la santé, enfin tout ça. Et donc, je commençais en fait à connaître finalement. Et j'ai oublié de te dire un truc, c'est que quand j'ai fait quand j'ai jeûné en Bretagne avec cette naturopathe, je me suis super bien entendue avec elle. Vraiment très, très bien. Et elle a l'âge de mes parents, mais c'est une de mes meilleures amies, je pense. Et quelques semaines après, elle m'a dit, je suis en galère, j'ai un énorme groupe et j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu veux venir m'aider? Je peux pas te payer. Mais tu pourras apprendre et me côtoyant quoi, parce que j'étais vraiment très très intéressée par ce qu'elle faisait. Et donc pour moi c'est la chance de ma vie.
Génial.
Donc j'étais ses petites mains, je préparais les salles de yoga, j'accueillais les gens, je rangeais tout, je nettoyais tout. Enfin, on fait comme si elle m'exploitait, mais pas du tout. En fait. C'était un bonheur, pur bonheur d'être là. J'assistais évidemment à ses conférences le soir. Ça me permettait de jeûner aussi quand je voulais ou de faire des détox. Et je cuisinais pour les gens qui étaient en détox. Ou pour les descentes alimentaires, ou pour les reprises alimentaires. J'ai toujours adoré cuisiner, mais en fait, là, elle m'a un peu insufflé un nouveau truc. Elle m'a dit, par contre, il faut que tu cuisines végétarien, voire végétalien, voire vegan, pardon. Il faut que ce soit 80% de cru, il faut que ce soit 100% locavore, il faut que... En fait, tout d'un coup, il y avait tellement de contraintes que j'étais à mort stimulée dans ma créativité, finalement.
Alors que parce toi, que... t'étais, à l'origine, t'aimais cuisiner, mais voilà, tu...
J'ai toujours adoré cuisiner, mais je n'avais aucune idée de cette cuisine-là, en fait.
Ouais.
Et c'est marrant parce que avec le recul, c'est comme ça qu'on mangeait chez la mère de mon père, mais pour moi, c'était parce qu'elle était un peu hippie et que, enfin,
elle fait, mangeait végétarien déjà.
Ouais, ouais, ouais. Okay. Et puis elle se soignait avec les plantes. Mon grand-père aussi, c'était très très érudit. Il connaissait vraiment la nature, les plantes, les astres, les nuages, enfin tout. Et bref.
Donc là, t'es obligée de créer des recettes.
Je suis obligée
déjà
d'inventer plein de trucs et j'adore ça. Et je le fais vraiment avec passion et je le fais plutôt bien parce que les personnes qui sont à ces stages, en fait, aiment beaucoup ce que je fais. Bon, en même temps, après, ne pas avoir mangé pendant une semaine, tout est délicieux. On va pas se mentir, mais...
Mais bref, comment tu fais ? Ça m'intrigue, ça, parce que... est-ce qu'à l'époque, déjà, tu commences à regarder sur Internet, voir où t'es déjà consciente des bienfaits de différents aliments et donc il faut associer ça avec ça
Mais en fait, je l'apprenais en côtoyant Céleste. Okay. Et j'ai vraiment appris, notamment, il y avait une des conférences du soir, parce que tous les soirs, il y avait des conférences sur les associations alimentaires, les bonnes huiles crues, le bienfait de la lactofermentation. Je commençais en la côtoyant à apprendre ça. Je m'enrichissais beaucoup. Et puis après, il y a eu l'Australie. Et quand je suis rentrée, en fait, j'ai commencé des études de naturopathie.
Donc, pas immédiatement.
Non, en fait,
pas
immédiatement. Non, mais et puis même, je suis allée au Brésil aussi après.
T'avais la bougeotte.
Ouais. Et ce que j'ai oublié de te dire encore par rapport à ces stages de jeûne, c'est que, en fait, déjà à ce moment-là, les clients de Céleste m'ont proposé de venir faire la cuisine chez eux, la cuisine saine.
Ah ouais, ok, donc c'était quand même, retour
en fait, c'était
d'expérience
lancé.
Incroyable.
Et ça marchait très très bien tout de suite, et à cette époque...
C'est-à-dire que t'es allée faire la cuisine tout de suite chez eux.
Jusqu'à, je leur faisais des repas, des réceptions, je leur remplissais le frigo pour la semaine, il y avait plein de...
Donc t'apprends tout de suite à faire des quantités et tout. Quoi.
Exactement, et en fait ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Pour moi, c'était, je savais cuisiner sainement, je savais cuisiner, il y avait aucun traiteur, ni il y avait deux petits restaurants dont un qui existe toujours vers Odéon qui faisait de la cuisine bio et saine, mais sinon il y en avait aucun autre. C'était des trucs très très poussiéreux presque, et donc ce que je faisais était assez nouveau à l'époque à Paris, c'était en 2009 à peu près, et donc voilà, ça a tout de suite super bien marché. Mais il y a eu l'Australie et puis il y a eu le Brésil après.
Tu pars au Brésil?
Je pars au Brésil parce que en fait j'avais aucune attache à Paris et que mon meilleur pote était là-bas et que j'ai de la famille là-bas, donc un peu tout au départ j'y allais en vacances en fait, finalement je suis restée.
D'accord.
Enfin, je suis restée 6 mois, après je suis rentrée pour faire mon visa et finalement je suis restée à Paris. Donc, parce que je pensais vraiment, j'avais déjà des clients là-bas, une grosse...
Donc t'as continué là-bas?
J'ai continué à faire la cuisine à domicile, la cuisine saine, sauf que là-bas, comme les gens qui ont de l'argent ont très souvent des employés dans tous les sens, je formais les empregadas, donc les cuisinières à domicile, je les formais à la cuisine saine.
Et ça veut dire que là-bas aussi, il y avait une
très
forte
demande. Ah bah oui, et puis là-bas, en plus, ils sont déjà très très intéressés par le corps, le sport, tout ça.
Et est-ce que est venu aussi par le biais de ton séjour au Brésil, l'intégration, je sais pas, de super aliments venant du coin?
Bah bien sûr, parce que là-bas, en fait, j'ai découvert l'açaï, le coupe-poissou, évidemment, la cajou, mais le fruit, la cajou, pas la noix. Enfin. Il y a la nature là-bas, et puis en plus Rio est dans la nature, dans la forêt presque, donc ça regorge de super aliments, il y en a partout, quoi, c'est assez dingue.
Incroyable.
Donc et puis l'eau de coco, de jeune coco, enfin c'est très très, on peut très mal manger si on veut, mais en tout cas la nature est d'une abondance folle. Et donc évidemment, j'ai introduit plein de super aliments dans ma cuisine là-bas. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai fait des études de naturopathie.
Et qu'est-ce qui fait que tu ne retournes pas au Brésil, juste?
Ah, un garçon, évidemment.
Toujours.
Un garçon, d'abord, malheureusement, un ami malade, auprès de qui j'ai voulu rester jusqu'au bout. Et puis après, un garçon, quoi. Donc, je suis restée à Paris. Je suis restée à Paris, et finalement, en fait. dans ma tête, j'allais toujours y retourner un moment avec lui. Et puis, en fait, je suis restée à Paris.
Donc là, tu te dis, il faut que je me forme.
Donc, qu'est-ce que je vais faire à Paris? Donc je travaillais déjà. Je faisais déjà cuisinière à domicile, chef à domicile le week-end, le soir, enfin, dès que je pouvais. Et en plus, je faisais mes études de naturopathie parce que c'était assez léger. C'est sur 4 ans, mais c'est des cours du week-end que le week-end.
Ah, d'accord.
Donc, 2 à 3 jours par semaine. Donc, c'était complètement jouable. Et donc voilà, et puis le traiteur marche de mieux en mieux. Au début, j'étais en cuisine de ma mère, et puis en fait, j'ai gagné assez d'argent pour créer un labo et tout ça. Et puis ça a marché très vite, très bien en fait. Et puis donc j'ai eu ma première petite guinguette dans le premier arrondissement, mon premier livre délicieusement green, et puis maintenant, et puis entre temps,
attends, ne saute pas les étapes. Donc, comment tu passes de j'ai un labo à j'ouvre déjà un traiteur sur la rue? Et ensuite, comment se passe ce premier livre? Est-ce que c'est les éditeurs qui viennent te voir? C'est toi qui dis, bon, là, il faut que j'en fasse un livre. Comment ça se passe?
En fait, je suis arrivée vraiment au bon moment en France parce que j'étais le seul traiteur de cuisine saine et que dans le milieu de la mode, c'était très déjà tendance. En vogue, mais qu'il n'y avait pas grand-chose à Paris, très tendance. Et donc, en fait, j'ai commencé à beaucoup, beaucoup travailler pour les Fashion Week et les journées presse. Et en fait, dans les journées presse, il y a des journalistes. Et donc, quand ils voyaient cette cuisine, qu'ils connaissaient pas, parce qu'avant, les traiteurs, c'était Potal et Chabot, Daloyau, c'était très tradit, en fait. C'était du saumon fumé, des trucs comme ça. Et là, en fait, c'était très différent. Et puis, je mettais des fleurs partout. Je mettais des serviteurs muets sur lesquels c'est les présentoirs à étage, sur lesquels je mettais du lierre. Et puis, je glissais des petites fleurs de jasmin dedans pour l'odeur. Enfin, en fait, c'était hyper nouveau. Et puis, je travaillais qu'avec des copines. À cette époque-là, tout le monde était OK pour faire des petits boulots de temps en temps. Maintenant que je suis vieille, tout le monde travaille, donc je dois aller piocher dans les copines de mon petit frère. Mais à cette époque, en fait, donc c'était des filles hyper contentes d'être là, qui me connaissaient bien, qui pouvaient parler de ma formation. Je mettais des couronnes de fleurs fraîches à tout le monde. C'était vraiment rigolo parce que c'était très nouveau en fait. Et donc l'engouement était très rapide et donc j'ai eu beaucoup d'articles de presse. Et à ce moment-là, j'ai fait aussi le premier festival We Love Green, qui était petit à l'époque. On était que
t'es
deux.
T'es là depuis le début.
Ouais. Incroyable. Depuis le tout premier. On était que deux restaurateurs, il me semble, avec Salsemia. Et donc c'était vraiment le tout début. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé à faire des quantités mais inimaginables. En une heure, on avait fini notre stock du week-end. Donc bref, on se relayait avec des copines, on faisait des réveils, on travaillait toujours la nuit, le jour. Enfin, il y avait un roulement permanent. Et à la We Love Green, une femme vient me voir qui s'appelle Agnès Vidali, qui est très étrange et qui est très chère à mon cœur, et me dit qu'elle travaille chez Marabout et que j'étais waouh, faire un livre et tout. Et à ce moment-là, mon copain habite dans le premier.
T'as déjà ouvert
Non, c'était à peu près la même époque en fait. Et en fait, avec mon copain, on se connaît depuis qu'on est très très petit en fait, depuis qu'on a 15 ans. Et c'était chez sa marraine que je suis allée à San Francisco d'ailleurs. Et en fait, il habite dans le premier. Maintenant on habite au même endroit dans lequel il habitait avant, bref. Mais donc on passait toujours devant une toute petite boutique qui était trop jolie, qui était une petite fleuriste japonaise à une époque, et puis un serrurier, et puis rien. Et puis à un moment il me dit, mais cette boutique elle est pour toi et tout. Je dis, ah mais non, mais j'ai pas les épaules pour ouvrir un truc et tout. Et bref, il m'a vraiment poussée. Et puis un jour on a fait un setting devant. On s'est mis à rêver devant cette boutique qui fait quand même 2,7 mètres carrés, donc est toute petite. Et puis, dès que quelqu'un entrait dans l'immeuble, on lui posait des questions, machin, jusqu'à ce que finalement, à coup de harcèlement, on réussisse à avoir le numéro de la copro et tout ça. Et puis finalement, j'ai réussi à louer le lieu. Et c'est la toute première guinguette qui marche super bien, puisqu'on fait parfois 300 repas par jour, alors qu'on est ouvert que 3 heures par jour.
Et t'es toute seule à ce moment-là ou t'as avec...
Je suis complètement toute seule. Donc je cuisine le soir ou la nuit ou le matin. Ou les trois. Et le matin, je pars avec... à l'époque, j'avais un triporteur. Je pars avec mon triporteur là-bas. Je vends des trucs. Je fais carrément du sur-mesure à l'époque, puisque c'était le tout début. Et comme je faisais mes études de naturopathie, donc pour chaque client, j'ajoutais ou de la spiruline, ou de la maca. Enfin, je mettais vraiment ce dont ils avaient besoin, ou du lacto-fermenté. Enfin, c'était assez rigolo. Maintenant, ce serait plus possible parce qu'il y a beaucoup trop de personnes. Mais vraiment, c'était assez marrant. Et puis voilà, après ça grandit, après j'ai commencé à engager des gens, Je travaillais, au début, c'était une copine à moi, parce qu'entre-temps, je ne t'ai pas dit, mais j'ai commencé aussi des études de psycho. Et
quoi, donc, parce que tu étais plus sûre de...
Quand j'étais en naturo, non, mais c'était pour avoir un diplôme d'État, mais finalement, j'ai pas fini. J'ai pas de diplôme. Enfin, si, mais il n'est pas reconnu par l'État. Et donc, une amie de psycho qui avait eu son diplôme jusqu'au bout, elle, et n'avait pas envie tout de suite de travailler en hôpital, et je lui me file un coup de main avec les mails, et finalement, en fait, comme ça grandissait tellement vite...
Oui, parce que j'allais dire, ça devait pas être tenable très longtemps, travailler la nuit, enfin,
non, cuisiner... Non, en même temps, j'étais vraiment grisée par l'excitation du début, et puis tout le monde mettait la main à la pâte. Mes parents m'aidaient, mes frères m'aidaient, tous mes amis m'aidaient. C'était tellement nouveau, et puis aussi, on était jeunes, donc pas encore trop pris dans nos vies, et donc tout le monde, c'était vraiment sympa, en fait. Et puis, comme souvent, les histoires, quand on parle des débuts, c'est toujours aussi galère que sympa. C'est toujours aussi crevant qu'exceptionnel, en fait.
Ouais,
on se souvient toujours de ces moments. Et d'ailleurs, je me souviens quand je le vivais, quand on faisait des trucs pas possibles pour l'Élysée, où on n'était pas du tout armés, tout. C'était n'importe quoi. Je me souviens de m'être dit qu'un jour, j'y repenserai avec nostalgie. D'avoir vécu le moment pour de vrai, en fait. Je le vivais à fond parce que je savais que j'y repenserais, quoi. Je le savais déjà précieux.
Je trouve que ça fait un peu cet effet quand tu as un enfant et que t'en peux plus de la fatigue et tu dis, je sais que je repenserai un jour en ce moment avec nostalgie, quoi.
Exactement.
Quand elle sortira et voudra pas.
Exactement. Parce qu'en fait, on n'a pas hâte que notre enfant ait 15 ans, finalement, et qu'il soit complètement indépendant et qu'il nous rejette et qu'il ait des boutons. Mais voilà. J'écoute, je te dis vachement quand même de trucs sur ma vie.
Et donc le livre arrive en parallèle.
Il y a eu le premier livre que j'ai écrit en parallèle.
Donc
et
c'est
puis...
toi qui écris toutes les recettes par rapport aux recettes que tu fais dans ta gamette.
Oui, bien sûr. Complètement. Et
ça cartonne aussi.
Ça marche bien. Et donc là, maintenant, j'en suis à mon 7e livre, bientôt 8e.
Et c'est toi qui, à chaque fois, propose des nouveaux livres ou c'est eux qui viennent vers toi?
Ça dépend. Alors, pour Marabout, c'est eux qui étaient venus me voir en premier. Donc, j'ai fait le deuxième qui est complètement vegan, qui est un gros livre avec beaucoup, beaucoup de recettes vegan qui s'appelle La guinguette d'Angèle, les nourritures bienfaisantes avec eux. Ensuite, il y a Alain Ducasse qui m'a contactée. J'ai commencé, en fait, à aller dans ses cuisines au Plaza Athénée avec le chef Romain Médère pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient, peut-être les orienter sur... Ils sont déjà assez calés sur la médecine traditionnelle chinoise, mais sur l'impact, sur le charbon, par exemple, sur le chanvre qu'ils ne connaissaient pas, sur plein de trucs comme ça, leur montrer un peu des nouveaux produits sains. Et ensuite...
Ouais, intéressant qu'un grand chef s'intéresse
très intéressant.
À l'ouverture de notre
alimentation. Et j'ai fait un livre avec eux, avec Alain Ducasse et Romain Médère. Donc là, c'était aux éditions Ducasse, sur les repas de fêtes végétales. Ensuite, j'ai fait un livre sur les eaux et les infusions détox avec Marabout. J'ai eu la chance de parcourir le monde avec France 5 pour une émission de télé sur France 5 avec mon partenaire, pas du tout, un médecin généraliste qui s'appelle Vincent Valinduc.
D'accord.
Et en fait, c'était sur les zones bleues, donc les zones où les gens, les petits lieux dans le monde où les gens vivent extrêmement longtemps, où il y a une très très forte concentration de nonagénaires centenaires et super centenaires en très très bonne santé.
Où est-ce que, par exemple...
Alors, on est allé à Okinawa, au Japon, en Équateur, au Costa Rica, en Sardaigne et en Grèce.
Ok.
Et donc, vraiment génial. Et donc, moi, j'apportais mon expertise de naturopathe sur le lien social, l'impact du spirituel ou du psychique sur la santé, évidemment l'alimentation.
Oui, parce que ce dont on n'a pas parlé, enfin, tu nous en as parlé un petit peu au début, mais la naturopathie, ce n'est pas que l'alimentation.
Non, pas du tout. C'est global. En fait, des naturopathes, c'est comme des coachs de santé.
D'accord.
C'est pour rester en bonne santé, c'est assez global en fait. Il y a le système psycho-émotionnel, donc on va faire attention que la personne ait un psychique plutôt équilibré, donc ou qu'il aille voir un psy ou un sophro ou qu'il puisse faire des méditations, peu importe. En fait, on adapte, hein, c'est 100% adapté, c'est pas une dose, c'est tout le monde est différent. Il y a évidemment le sommeil, l'activité sportive, l'alimentation, l'hydrothérapie, l'aromathérapie, il y a plein d'aspects en fait dans la naturopathie.
Et toi, avec cette vie aussi active que tu as, tu as continué à pouvoir réussir à appliquer ces principes à ta vie?
Mais pas du tout. je devrais peut-être te mentir pour ma réputation, mais pas du tout. En fait, moi, mon principe principal et celui auquel je suis pas prêt de déroger, c'est le plaisir et le bonheur de l'instant présent. J'essaie toujours d'être présente où je suis. Et donc, si je suis invitée chez des amis et qu'il y a n'importe quoi à manger, n'importe quoi, des trucs qui sont pas du tout sains, mais qu'il s'est donné du cœur et que j'ai envie de le manger à ce moment-là, je le mangerai sans problème.
Ouais. Tu n'es pas végétarienne?
Non, j'achète pas de viande pour chez moi.
Ouais.
Mais
tu peux manger de la viande
de temps en temps. Ouais. Après, c'est sûr que je préfère savoir la provenance et tout, mais j'essaie de pas être cette personne trop relou non plus. Mais, en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour les végétariens et les véganes qui,
au quotidien.
Qui, ouais. Bah ouais, et puis qui lèvent quand même un point crucial dans notre société. Donc, moi, pas complètement. Mais je leur apporte beaucoup de soutien et d'admiration. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire? Et puis, oui, non, j'applique pas tout. Parfois, je manque de sommeil. Parfois, je stressais pas trop, mais quand même un peu.
Ouais, le stress, t'arrives à gérer.
Ouais, pas mal. Enfin, il y a des trucs très peu, mais des certaines choses qui me stressent et qui sont pas celles à laquelle on croit, mais.
Comme quoi?
Mais bah, non, elle va pas me lâcher, celle-là. Et comme, par exemple, si j'ai une émission de télé, une émission de radio, ou un impératif de livre à rendre, ou ce genre de truc, ou un article de presse, je serais pas du tout stressée, en fait, jamais.
D'accord.
En revanche, comme j'ai une équipe aujourd'hui de pas mal de personnes, si je suis déçue, parce qu'en fait, je suis pas un principe de management, mais j'ai confiance, dans les personnes, les filles avec qui je travaille, et je les aime profondément. En plus, c'est vraiment, j'ai beaucoup d'affection pour elles, et c'est un rapport particulier où on est complètement égales, en fait. Il n'y a pas de patron et tout. Mais quand je vois que je donne cette confiance et que, en retour, on me la donne pas toujours et que certaines personnes profitent de certaines situations, ça me touche beaucoup et ça me fait beaucoup de peine.
D'accord.
Et donc, je sais que je peux me laisser atteindre par des choses et je travaille dessus.
D'accord.
Mais c'est très dur, en fait, de réussir à, en même temps, pas arrêter d'aimer les gens et de leur faire confiance et tout, parce que c'est ma façon d'être et que j'ai envie d'être honnête avec moi-même. Et en même temps, réussir à pas se faire avoir, parce que malheureusement, ça arrive que les gens veuillent vraiment, enfin, sont là pour profiter, quoi.
Et alors, t'as dit que t'avais que des filles autour de toi. Est-ce que c'est volontaire, ça, ou de fait, les gens qui postulent à la guinguette sont...
Ben, exactement. C'est surtout ça. On n'est pas contre les garçons. On a d'ailleurs eu récemment un stagiaire génial, qui était un garçon. Mais
on a le même problème chez Ecotab. Si
ouais, vous êtes que des filles aussi.
On a un garçon.
Ah, ouh. Non, en fait, c'est déjà à la base, c'est plutôt les filles qui s'intéressent à cette alimentation. Et puis, je dois te dire aussi que l'ambiance très rassurante, très féministe aussi, parce que je pense notamment à Juliette qui travaille dans les RH et au bureau. Qui est vraiment mon binôme, qui est très très, qui apprend beaucoup, qui se renseigne beaucoup sur le féminisme actuel et les qu'est-ce qu'on peut faire et comment vivre bien avec les autres et bref, comment aussi déconstruire certains modèles. Elle nous apprend énormément et en fait on est toutes portées par aussi cette confiance qu'on a entre femmes aussi, où on peut où on peut se dire les choses, où on se juge pas, il y a pas de jalousie, il y a pas de concurrence, il y a vraiment de la bienveillance, et donc voilà.
Ok. Donc tu sors tous ces livres, t'as la chance de faire cette émission. Et ensuite arrivent tes autres adresses. Comment on passe de une adresse à plusieurs adresses?
Un peu des hasards de la vie. Mon activité principale reste quand même l'événementiel.
D'accord. Aujourd'hui, tu continues.
Ouais, aujourd'hui, il n'y en a plus. Malheureusement, depuis un an, à cause du virus, mais sinon, j'adorerais continuer. Donc, oui, en fait, on continue évidemment. Pardon. C'est les grands moments de nos années. Pour nous, c'est les Fashion Week, c'est les festivals.
Ouais, on va dire ça.
Et puis c'est les foires d'art, enfin tout ça, c'est vraiment l'événementiel, ouais.
D'accord.
Et puis après, en fait, donc j'ai un peu par hasard, je regarde pour ouvrir d'autres guinguettes, et donc je tombe sur une petite guinguette Square Gardette, avenue Gérald Renault, qui restera ouverte, il me semble, 2 ans. Et ensuite, je me suis rendu compte, en fait, il y avait des places assises et les gens venaient s'asseoir pour manger.
Je me rappelle, je suis venue là-bas.
Ah, c'est vrai?
Ouais. C'est juste à côté de chez moi.
Ah bon? Et en fait, je me rends compte que mon modèle n'est pas du tout applicable à ça. Entre-temps, j'ouvre aussi un restaurant chez Bonpoint, rue de Tournon, d'accord, derrière le Luxembourg. Qui est, où, en fait, donc Bonpoint, c'est un magasin de vêtements pour enfants. Et en fait, ils ont un hôtel particulier rue de Tournon qui est absolument magnifique. Un énorme bâtiment en U qui s'articule autour d'un jardin sublime, enfin en plein cœur de Paris, d'un calme fou, etc. Et il me propose de prendre le restaurant qui est un peu plus bas, enfin il faut traverser le magasin pour y aller, et qui donne accès, enfin où j'ai accès au jardin et tout. Il y a déjà une cuisine toute faite et tout. L'opportunité est trop grande pour que je refuse, parce que c'est un resto tout fait qui me coûte presque rien avec un super jardin et tout. Mais en fait, je me rends compte avec le Square Gardette et Bonpoint qu'en fait, ce modèle de takeaway, de cuisine centrale qui est dans le 14e, parce que je vais te dire que la cuisine centrale est dans le 14e arrondissement, où les plats partent le matin et sont distribués dans la journée, ça marche que quand c'est à emporter.
Pourquoi ?
Bah, en fait, déjà, ça me dérangeait, moi, que les gens mangent assis dans des boîtes en carton, craft. Ça n'allait pas. En plus, quand on s'assied, on s'attend pas au même service. Et puis moi, j'étais frustrée en fait de pas pouvoir leur faire des plats minus, de pas me faire d'émulsion, de servir chaud. Enfin, tout ça, c'est pas possible. Et donc en fait, moi, en tant que consommateur, ça m'aurait dérangé de consommer quelque chose qui n'est pas du tout fait minute et qui est fait le matin ailleurs et qui a voyagé. Enfin bref, j'aimais pas le principe en fait. Donc, et puis je trouvais que ça n'allait pas. Et aussi, une autre contrainte réelle, c'est que quand on a un restaurant assis, les gens, quelqu'un peut venir avec 4 poussettes et 3 chiens, et puis prendre un café et rester 6 heures. Rien n'empêche. Et donc, c'est aussi
financièrement, un manque à gagner. Financièrement, tu t'y retrouvais pas ?
Non, c'était pas idéal. Okay. Enfin, financièrement, je sais ce que j'aurais pu faire pour que ça marche. J'aurais pu mettre des équipes à chaque fois qui cuisinent frais, etc. Mais j'aimais bien ce principe de takeaway.
Ouais, d'accord.
Et j'aimais bien aussi le principe que les gens puissent manger n'importe où, dans les jardins, dans les parcs, au bureau, si vous voulez, et que ce soit de la cuisine, du fast-food, mais sain, en fait. Ouais. Qu'on n'était pas obligé, pour manger rapidement sur le pouce, de manger n'importe quoi et des trucs qui ne nous font pas du bien.
Ok, et donc, ça ferme au bout de combien de temps ? 2 ans ?
2 ans, ouais.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Ensuite, j'ouvre la petite boutique Rue Cadet. Donc, malheureusement, elle a ouvert juste avant le premier confinement. En fait, là, à ce moment-là, dans ma vie, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Déjà, j'ai la chance de pouvoir partir avec ma famille et mon tout petit bébé en Haute-Savoie, dans la maison de
pendant
mon
le
copain, ouais, pendant le confinement. Donc là, déjà, un autre rythme, évidemment, du temps précieux passé avec les gens que j'aime le plus, en fait. On a fait un énorme potager, puis on prenait le temps de vivre, en fait. Vraiment, on était complètement... Je sais que c'est un peu déplacé de dire ça dans cette période de pandémie où les gens souffrent et meurent aussi, mais pour moi, c'était le plus beau moment de ma vie, vraiment. Je me suis retrouvée... Enfin, c'était inespéré de pouvoir être déjà avec ma famille sans que personne débarque de la famille, parce que c'est souvent le truc. Hein.
Parce que t'avais eu ton premier enfant et t'avais ton deuxième déjà.
Ouais, exactement. Et donc c'était vraiment exceptionnel, mais il y avait une contrainte réelle, c'est qu'on ne pouvait pas payer les loyers, les prêts, heureusement qu'on est en France et qu'on a pu mettre les gens au chômage partiel. Mais bref, il y avait une contrainte enfin, à long terme, qu'est-ce qu'on va faire si ça dure et tout ça. Même si au début, on a cru que ça allait durer 2 semaines, à un moment, on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas. Et là, je me suis complètement remise en question. Je me suis dit que si on arrêtait la guinguette, qu'est-ce qui se passait ? Que moi, j'étais prête à faire plein d'autres choses, finalement, qu'être proche de la nature, ça m'allait bien et tout ça.
Ah ouais, donc tu remets carrément en cause...
Oui, complètement. Mais je me suis rendu compte d'un truc avec lequel je n'étais pas du tout à l'aise. C'est que j'avais une équipe de 17 personnes. Mmh. Et qu'en fait... je pouvais pas les laisser leur dire bon bah on est en pleine crise hein, salut, démerdez-vous, je vais vivre dans la nature quoi. Il y a un moment où j'ai une responsabilité morale aussi pour ces personnes que j'ai décidé d'engager, donc que j'ai décidé d'adopter quelque part dans mon cœur et dans mes décisions. Et donc j'ai fait un gros prêt de l'État. Quelle chance aussi, encore une fois, qu'on ait pu faire ce PGE. Et puis j'ai décidé de de changer encore plus. D'ailleurs, Écotable m'accompagne pas mal dès que j'ai des questions là-dessus. Mais d'aller encore plus loin dans ma démarche écologique et éthique. Parce qu'en fait, pour la première fois, on avait le temps. On n'était pas toujours pressés à faire des événements et tout. On n'avait plus d'événements. On a réouvert les petites guinguettes. Et là, étonnamment, ça a cartonné. Les gens sont venus nous découvrir parce qu'il y avait rien d'autre d'ouvert, donc ils se sont dit c'est quoi ce truc, on y va. Ou alors sont venus parce que ils sont enfin chez eux et que sinon ils habitent loin et que donc ils pouvaient découvrir la boutique à côté de chez eux en fait qui était ouverte qu'à leurs heures de travail. Et aussi ils sont venus nous soutenir. Nos clients un peu quotidiens sont venus vraiment nous apporter leur soutien. Et ça c'est quelque chose que j'avais pas décelé, mais ça nous a toutes touchées.
Oui, j'imagine.
Évidemment, les personnes en boutique qui sont en contact direct avec eux, mais nous toutes, en fait, derrière, en cuisine et tout, quand l'après-midi, on attend le résultat de la journée pour savoir combien on va devoir produire pour le lendemain, et qu'on nous dit tout a été vendu, on a été là, mais c'est pas possible, on était trop heureuses et tout. Et donc, déjà, les boutiques marchent bien, et en plus, j'ai fait ce prêt qui nous permet de prendre le temps, sans que personne soit licencié ou quoi que ce soit, pour se repenser et pour faire de plus en plus de compostables, j'oublie toujours ce mot, j'ai toujours envie de dire compostable quand on laisse quelque chose.
De réutilisable.
Consignable, voilà.
Consignable, ok.
De consignable et de revoir aussi nos fournisseurs, plus français, plus ouais. D'Île-de-France, plus de saison.
C'est
évidemment nos déchets, mais là, nos déchets sont complètement gérés maintenant. Enfin, ils sont. Ouais. C'est clean complètement. Mais même jusqu'à notre liquide de vaisselle, nos produits pour laver le sol de la guinguette, parce que les produits pro, c'est quand même assez chimique.
Bien sûr.
Et aussi pour le bien-être en entreprise. Donc en fait, au lieu d'être en restriction totale et de serrer les vis, je claque un fric fou. Pour le bien-être de l'entreprise, là, je suis en train de fabriquer des nouvelles cuisines, un nouvel atelier qui va être encore mieux. Et en fait... En fait, je sais pas si on va survivre ou pas parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Si ça se trouve, ça va durer 10 ans et clairement, on pourra pas survivre. Mais si on survit, quand on pourra se revoir, se rembrasser, se recôtoyer, on sera là et on sera vraiment bien là et on sera nickel. Enfin, on aura hâte de pouvoir partager tout ce qu'on a mis en place et tout ça.
C'est une très belle conclusion que tu nous fais là. Franchement, c'est magnifique et hyper intéressant parce que nous, c'est ce qu'on a ressenti chez Écotable, le besoin de faire des choses ultra positives pendant cette fermeture, et notamment sur l'écologie, de se dire, bon, c'est le moment. Ma dernière question, ce sera, mais comment t'as pris conscience de cette question d'écologie? C'était toujours hyper important pour toi ou il y a eu un déclic récent?
Ah non, ça a toujours été important pour
D'accord.
moi. On a toujours mis en place des choses. Sauf qu'avant, il y a certaines choses dont je me rendais moins compte. En fait, on a beaucoup de chance que les médias aussi parlent de plus en plus de ça, qu'il y ait des mouvements,
ouais.
comme On est prêt, les films de Cyril Dion, le magazine Kaizen. Enfin, il y a vraiment... Aujourd'hui, on a la chance que... En fait, c'est plus juste une mode qui concerne trois pelés. On est tous concernés. Et d'ailleurs, je suis toujours un peu ahurie quand je vois les partis politiques qui s'arrachent le truc. En fait, ce n'est pas... Pour moi, l'écologie, ça ne devrait même pas être politique. On respire tous le même air, on boit tous la même eau, on vit tous sur la même planète. Donc c'est global, en fait, ça concerne absolument tout le monde. Peu importe l'argent qu'on a, peu importe... Parce qu'on peut... ça, c'est quelque chose, Écotable aussi, vous nous aidez vachement là-dessus, à nous montrer qu'on peut être éthique sans dépenser de l'argent fou. Et qu'en plus,
oui, bien sûr.
On revoit nos priorités et on revoit nos valeurs. Est-ce que je suis prêt à payer assez cher pour que mes poubelles soient compostables et mon verre soit compostable et mon plastique et tout? Donc, ça fait vraiment des frais à la fin du mois. Ben en fait, oui, parce que ça m'apporte tellement de bonheur. Et c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable sur un compte en banque, mais qui est énorme dans nos vies, en fait.
Ouais, c'est clair.
Et ça, c'est une richesse. Et on oublie un peu de rappeler que la richesse, ça n'est pas que l'argent.
Ouais.
Pas du tout.
et dernière question que je pose un peu à tout le monde dans ce podcast, est-ce que tu te considères comme une militante de l'assiette? Est-ce que le terme militante te satisfait?
J'aimerais te dire oui. Je suis en train de penser parce que je me vois pas du tout comme une guerrière. En fait,
moi, je te vois un peu comme une guerrière.
Ah ouais, ouais. Bah écoute, ça me fait super plaisir. Mais pour moi, en fait, parce que en fait, je côtoie beaucoup quand même de personnes, notamment à la télé et tout ça, qui prennent les véganes pour des gentils allumés, l'écologie, nous font chier les écolos, machin, j'en vois plein. Et en fait, j'ai décidé, mais aussi c'est parce que c'est dans mon tempérament, de jamais être contre et de toujours être pour. Donc c'est dans ce sens-là où j'ai du mal à me...
D'accord, oui.
Je suis pas contre la pollution, contre machin, je suis pour une agriculture différente, une façon de vivre différente. Et en fait, ça change. Et si on garde une légèreté apparente, et si on garde de l'humour, et qu'en fait on fait éclore des choses dans la tête des gens par ce biais-là, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent, parce qu'il y a pas de culpabilité, il y a pas tous ces sentiments négatifs. On passe que par le positif.
Mais du
et
coup,
ça marche mieux.
T'es pas en colère.
Je suis pas en colère. Enfin,
t'arrives.
Parfois, c'est dur quand même de voir certaines choses, notamment les anciens présidents américains ou brésiliens. C'est très dur de voir ça encore aujourd'hui.
N'entache pas ta joie de vivre.
Ouais, j'y crois.
Et ton positif, c'est incroyable. Bah, écoute, merci beaucoup, Angèle.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille.